qu'il en arrive autant à la tête vivante, après que tous les alliés d'Artois auront dessus pissé à longs jets !» s'écria Robert. Pour qui aime briser, il ne s'agit que de commencer. La masse de fer hérissée de pointes se balançait menaçante au bras du géant. « Ah, ma tante bien gueuse, vous m'avez dépouillé de l'Artois parce que celui-ci qui m'engendra... » Et Robert fit voler la tête de la statue de son père, le comte Philippe. « Fit la sottise de mourir avant celui-là !» Et il décapita son grand-père, le comte Robert II. « Et j'irai vivre parmi ces images que vous avez commandées pour vous faire un honneur auquel vous n'aviez pas droit ? Ah bah, mes aïeux, nous recommencerons tout !» Les murs tremblaient, les débris de pierre jonchaient le sol. Les barons d'Artois s'étaient tus, le souffle coupé devant cette grande fureur qui dépassait de loin leur propre violence. Comment, en vérité, comment ne pas obéir avec passion à un tel chef ? Lorsqu'il eut terminé d'étêter sa race, Robert jeta la masse d'armes à travers les vitraux d'une fenêtre et dit en s'étirant « Nous voici à l'aise pour causer maintenant. Messire, mes féaux, mes compains, je veux d'abord qu'en toute ville, Prévôté et Châtellenie, que nous allons délivrer du joug de Mao, il soit inscrit les griefs que chacun a contre elle, et que le registre soit exactement tenu de ses mauvaisetés, afin d'en envoyer compte précis à son beau-fils, messire Porte-Close, car il enferme tout dès qu'il paraît, cet homme-là, les villes, les conclaves, les trésors, à messire Cour de l'Œil, autrement dit notre messire Philippe le Borgne, qui se proclame régent et qui fut cause qu'on nous ôta voici 14 ans ce comté, afin qu'il puisse lui s'engraisser de la Bourgogne, que l'animal en crève, la gorge nouée dans ses tripes !» Le petit Gérard Quiérez, l'homme habile en procédure, qui avait plaidé devant la justice royale la cause des barons artésiens, prit alors la parole et dit « Il est un grief, monseigneur, qui intéresse non seulement l'Artois, mais tout le royaume. Je gage fort qu'il ne serait pas indifférent au régent, qu'on sût comment son frère Louis Xe est mort. » « Par diable vif, Gérard, crois-tu donc ce que je crois moi-même ? As-tu preuve quand cette affaire aussi ma tante a poussé sa malice ?»« Preuve, preuve, monseigneur, c'est vite dit, mais fort soupçon à coup sûr. » »« Et qui peut être étayé par des témoignages. Je connais à Arras une dame qui s'appelle Isabelle de Ferrienne et son fils Jean, vendeurs tous deux de magisserie, qui ont fourni à certaines damoiselles d'Hirson la Béatrice. « Celle-là !» « Je vous en ferai un jour présent, mes compagnons !» dit Robert. « Je l'ai vu à quelques reprises et je devine rien qu'à son air. Que c'est régal de cuisse !» Les Ferriennes lui ont donc fourni, pour Madame Mao, du poison à tuer les cerfs, 2 semaines au plus avant que le roi ne trépasse. Ce qui pouvait servir pour cerf pouvait aussi bien servir pour roi. Les barons montrèrent par leur gloussement qu'ils appréciaient ce jeu de mots à leur portée. « C'était de toute manière poison pour porte-corne !» en réchit Robert. « Dieu garde l'âme de cocu de mon cousin Louis !» Les rires montèrent d'un ton. « Et cela paraît d'autant plus vrai, messire Robert, » reprit Quiérez, « que la dame de Ferrienne s'est vantée l'autre année d'avoir fabriqué le filtre qui remit en accord messire Philippe, que vous appelez le Borgne, et madame Jeanne, la fille de Mao. « Catin, comme sa mère !» Vous avez eu bien tort, mes barons, de ne pas étouffer cette vipère quand vous la teniez à votre merci ici même l'automne dernier, dit Robert. Il me faut cette femme Ferrienne, et il me faut son fils veiller à les faire prendre dès que nous serons à Arras. À présent, nous allons manger, car cette journée m'a donné grand faim qu'on tue le plus gros bœuf aux étables et qu'on le fasse rôtir tout entier. Qu'on vide l'étang des carpes de Mao et qu'on nous porte le vin que vous n'avez pas achevé de boire. 2 heures après, le jour étant tombé, toute cette fière compagnie était ivre à rouler. Robert envoya Lormet, qui tenait assez bien le mélange des crus, rafler en la ville avec l'aide d'une bonne escorte ce qu'il fallait de filles pour contenter l'humeur gaillarde des barons. On ne regarda point de trop près si ces femmes que l'on tirait de leur lit étaient pucelles ou mères de famille. Lormet poussa vers le château un troupeau en chemise de nuit, bêlant de frayeur. Les chambres saccagées de Mao devinrent alors le lieu d'un friand combat. Les hurlements des femmes donnaient de l'ardeur aux chevaliers qui s'empressaient à l'assaut comme s'ils avaient chargé les infidèles, rivalisaient de prouesse aux déduits et s'abattaient à 3 sur le même butin.
Robert tira pour lui-même par les cheveux les meilleurs morceaux, sans mettre beaucoup de façon au déshabillé. Comme il pesait plus de 200 livres, ses conquêtes en perdirent même le souffle pour crier. Pendant ce temps, le sire de Soistre, qui avait égaré son beau casque, se tenait plié, les poings sur le cœur, et vomissait comme gargouille pendant l'orage. Puis ses vaillants, l'un après l'autre, se mirent à ronfler. Il eût suffi d'un homme cette nuit-là pour égorger sans fatigue toute la noblesse d'Artois. Le lendemain, une armée aux jambes molles, aux langues empesées et aux cervelles brumeuses se mit en chemin pour Arras. Seul Robert paraissait aussi frais qu'un brochet sorti de la rivière, ce qui lui acquit définitivement l'admiration de ses troupes. La route fut coupée de haltes, car Mahô possédait dans les parages quelques autres châteaux dont la vue réveilla le courage des barons. Mais lorsque le jour de la Sainte-Madeleine, Robert s'installa dans Arras, en vain chercha-t-on la dame de Férienne. Elle avait disparu.